suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel.
Nous sommes le vendredi matin sur les ondes de Radio Campus 106,6 et comme tous les premiers vendredis matins du mois, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels avec ce matin Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Salut Max, passez bonnes vacances ?
Oui, ça va très bien, ma foi, et toi donc ?
Cool, c'est l'heure des marronniers, c'est l'heure de la rentrée, on va parler donc des jeunes.
Ah d'accord, je pensais qu'on allait parler de l'école.
Entre autres, mais pas que. Et puis comme Max et moi, bon, on est encore jeunes dans la tête, hein, c'est pas ça. Mais bon, à partir de 40 ans, on peut estimer qu'on est censé devenir adulte. Donc, on a des invités qui sont un peu plus jeunes que nous. À peine. Donc, je vais vous présenter Lubin, qui a 10 ans. Bonjour, Lubin.
Bonjour.
Et puis Jason, qui a 23 ans. Bonjour, Jason.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu en cette rentrée, ce septembre. Plus vieux ou pas, ou en tout cas plus vieux, moins jeune, quoi. Et on va commencer par le thème des enfants, toujours avec le revenu de base. Mais on va d'abord vous initier avec notre question rituelle. Imaginez, à partir de demain, tous les mois, vous recevez suffisamment pour vivre. Ça tombe sur votre compte, à votre nom, il n'y a rien à faire, si vous bossez, c'est en plus. Et c'est toute votre vie. Qu'est-ce que ça changerait pour vous ? Qui veut commencer ? Vas-y Jason. À 23 ans, imaginez un revenu de base à partir de demain. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Ce que ça changerait ? Du stress en moins.
Ouais, donc plutôt par rapport à quoi le stress ? L'avenir ?
Non, plus besoin. Enfin, besoin de moins compter tous ses sous. Avoir une vie un peu plus
sereine.
Voilà, sereine.
Ouais. Donc plutôt lié à la sécurité financière, quoi.
Oui.
Les fins de mois qui arrivent le 15 ou.
Ou à partir du 2, comme diraient certains.
Ou du 2. Ouais, donc plutôt cool, on peut se débarrasser au moins un peu de cette charge mentale qui est de gérer, de compter, etc. Donc déjà, les jeunes sont soumis à ça, c'est ça que.
Ouf.
Dont tu témoignes aujourd'hui. Et alors pour plus tard, par rapport, je sais pas, est-ce que tu, par exemple, on pourrait imaginer que bah du coup tu dirais bah tiens je vais plus bosser.
À titre personnel, non, parce que j'ai envie de faire un métier que j'aime. Mm-hmm. Donc je considère pas le travail comme un métier. Enfin, j'ai pas envie de travailler pour travailler. De toute façon, je pense que les personnes qui font ça sont pas spécialement heureuses dans leur métier, heureuses de leur vie. Personnellement, j'ai envie de travailler pour un métier que j'aime, qui m'intéresse.
Bien, on t'a choisi sur quelques critères assez particuliers parce que tu es un jeune un peu avec déjà un parcours, puisque tu as déjà travaillé, c'est ça ?
C'est ça.
Et puis après, tu as arrêté. Alors pourquoi est-ce que tu as arrêté de travailler ?
J'ai arrêté de travailler. Enfin, je gagnais très bien ma vie avant d'arriver à la fac.
Comme militaire, c'est ça ?
C'est ça. Et. Le métier me plaisait moins et il s'est passé 2-3 événements déclenchants en fait, qui m'ont fait arrêter. Mmh. Et ça reste une super expérience, mais j'avais envie de retourner à la fac pour approfondir mes connaissances, pour vraiment faire de la physique-chimie.
Et ton prochain emploi ou travail ou passion peut-être, tu as l'air de dire, ça serait vers quoi ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ingénierie nucléaire.
D'accord.
Voilà, c'est donc des formations, c'est un voire deux masters qui m'intéressent, donc encore une paire d'années à faire à la fac et sur les bancs de l'université.
Ouais, donc en fait, ce que j'entends, c'est que tu t'es déjà offert le droit, tu es déjà autorisé à arrêter un emploi parce qu'il ne te plaisait pas, à repartir sur les bancs, sur les bancs de la fac, autorisé par ton jeune âge, parce qu'effectivement, du coup, tu as pu repartir comme si de rien n'était en formation initiale, quoi, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement ça. Avoir travaillé avant, en fait, ça me permet de penser actuellement mes journées plus sereinement que beaucoup de mes camarades.
Parce que tu as un petit peu de côté ou...
C'est ça. Donc, j'ai pas... Donc, actuellement, je vis avec ma bourse d'études. Et tout ce que j'ai besoin d'avoir à côté, style des vêtements, j'ai pas de voiture, mais c'est des genres de choses qui pourraient être comptées dedans. Je suis en résidence Crous.
On en reparlera du coup, effectivement. En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu as déjà pu arrêter de travailler pour choisir autre chose. Et que contrairement à ce qu'on pense, enfin, moi, c'est ce que j'avais entendu dire, Max, je sais pas toi, mais moi, on m'avait dit que les jeunes étaient feignants.
Ah bah écoute, justement, j'ai un conseil aux jeunes à te diffuser juste après, mais peut-être on peut entendre l'humain.
Oui, 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 on va écouter après quelques musiques, choix musicaux bien sélectionnés. Lubin, bonjour, tu as 10 ans.
Oui.
Donc tu es jeune, oui, là vraiment, on peut dire beaucoup plus jeune quand même. Et toi, donc, alors, peut-être pas là tout de suite maintenant, mais imagine si tu avais un revenu de base, imaginons à partir de 18 ans. Donc tu sais déjà, là maintenant, que quel que soit ce qui va t'arriver, à partir de 18 ans, tu auras ton revenu de base jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Ça me permettrait de peut-être faire plus tranquillement mes études.
Ouais.
Pour devenir entraîneur de hockey. Ça me permettrait de pouvoir vivre plus confortablement.
En plus tranquillement tes études, c'est-à-dire que tu serais moins stressé à les réussir du premier coup ou ce serait par rapport à quoi ?
Ça me permettrait de pouvoir les payer plus facilement.
Ah oui. Donc de pouvoir t'offrir les études qui te plaisent, même si elles peuvent être un peu plus chères ou déjà pouvoir te les offrir, quoi.
Ensuite, plus tard, ça me permettrait de pouvoir choisir dans le club duquel je voudrais travailler.
Plus de liberté pour choisir ce qui t'intéresse, même dans le travail, du coup, ouais. Et tu parlais aussi de, donc plutôt par rapport à la maison, la sécurité, donc tu pourrais choisir tes conditions de vie.
Ouais, ça. Pas forcément vivre dans un studio de 16 mètres carrés, avoir une petite maison, vivre confortablement.
Et du coup, là maintenant, si tu t'imagines comme ça, ça te rassure ou... T'es inquiet par rapport à l'avenir ou
inquiet quoi, ça va?
Non, ça va.
Pas encore trop inquiet. Bon, pour l'instant tu sens en sécurité. Ok, super. Ben merci beaucoup de vos témoignages.
Moi, alors... j'avais une question pour vous deux aussi. C'est vous auriez plus facilement imaginé un autre métier ou vous êtes toujours sur votre métier de cœur pour l'instant qui a un revenu de base ou pas, ce sera votre métier.
Personnellement, qu'il y ait de revenus de base ou pas, ce sera mon métier parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'estime aussi important pour plein d'autres raisons de travailler dans cet univers-là. Donc dans tous les cas, je travaillerai dans ce secteur, ça c'est sûr, revenus de base ou pas. Mais la facilité pour y accéder et facilité pour faire les études, c'est là qu'intervient le revenu de base.
Et toi, Lubin, entraîneur de hockey ?
Je pense qu'avec un revenu de base, je voudrais quand même le faire.
Ouais.
Parce que le hockey, c'est un peu ma passion. J'en fais depuis... j'entre dans ma 7e année, du coup... j'ai envie de continuer comme ça, quoi.
Donc tu rêverais de faire un métier qui correspond à ta passion de maintenant et de pouvoir continuer, quoi.
Oui.
Non, merci beaucoup. Alors, les enfants, figure-toi que... aujourd'hui, leur situation n'est pas des plus faciles. Alors, évidemment, il y a encore des allocations, les allocations familiales, sauf qu'elles sont conditionnées. Sachez que le premier enfant ne vaut pas autant que les suivants. On a encore une politique assez nataliste en France.
Il ne vaut pas un clou le premier ?
Non, en fait. C'est que quand on en fait plein que ça rapporte des sous. Il vaut mieux le savoir avant quand même. Ou alors faire le premier très très vite et vite enchaîner, parce qu'il faut quand même un peu de temps. Donc voilà, déjà on pourrait interroger cette histoire de politique nataliste aujourd'hui, alors que bon, on peut se dire quand même qu'on est assez nombreux pour que le genre humain survive. On pourrait même commencer à nourrir tout le monde. Donc il y a une certaine insécurité, une inégalité parmi les différents enfants. Et on peut rappeler aussi les droits de l'enfant, la Convention des droits de l'enfant qui cite que chaque enfant a le droit à l'alimentation, aux soins, à l'école, la protection contre les violences et les discriminations, des conditions de vie décentes, mais aussi jouer, des loisirs, la liberté d'informer, de s'informer, de s'exprimer, de participer. Et puis une famille avec de l'amour, quoi, tout plein d'amour. Et en fait, on voit que dans un certain nombre de familles aujourd'hui, il y a même des publicités qui montrent des enfants pauvres avec l'étiquette de la pauvreté, n'ont pas, en fait, ce qui nous semble pourtant évident. Et il faut rappeler aussi que sur le cerveau d'un enfant, le stress fait des dégâts incroyable. Le stress sur un enfant fait plus de dégâts que sur un cerveau d'adulte. Ça réduit les capacités, ça tue des neurones, ça réduit même, ça ralentit la fabrication des neurones. Et pour les gamins qui stressent vraiment parce qu'ils ont subi des traumas, par exemple, pendant l'enfance, on voit que certaines parties du cerveau sont plus petites. Et donc, même si après, ils sont dans un bain d'amour, de sécurité, d'encouragement, etc., de stimulation, eh ben, ils ne vont pas pouvoir rattraper physiquement, biologiquement, dans leur cerveau, c'est ce qui a été perdu pendant l'enfance. Donc la question aussi, alors moi je vais réagir ici non pas comme jeune, j'ai fait mon deuil, mais plutôt comme professeur et comme maman. En tant que prof, je vois que dans les écoles, tout notre système scolaire, avec la compétition, avec cette programmation vers l'orientation, il y a un stress énorme. Moi je suis plutôt prof de collège. Et on voit se développer chez les gamins des stratégies pour réagir face à ce stress. Alors pour certains, ça va être l'évitement. Pour d'autres, ça va être la rébellion. Pour d'autres encore, ça sera la soumission. Et la pression scolaire est telle qu'il y a de plus en plus de troubles, alors de bipolarité, etc., mais aussi de burn-out et de suicide chez les jeunes. Et ça touche aussi l'immunité, etc. Donc il y a comme ça une tranche d'âge qu'on méconnaît et dont on se dit que bon, le revenu de base, il n'y aurait pas forcément un effet direct sur eux, puisqu'ils ne recevraient pas en tant qu'enfants. N'empêche que, il y a comme ça tout un environnement à mettre autour de l'enfant, un environnement plus serein, avec peut-être des apprentissages plus libres, pour aller vers l'autonomie et la coopération. Parce que la liberté, ça s'apprend. Et ça s'apprend en ayant. Si vous n'avez pas de liberté et qu'à partir, moi je vois au collège, on commence à leur dire « Ah non, mais il faut que tu travailles pour toi, parce que tu sais, c'est pour toi que tu le fais, et puis bientôt tu vas pouvoir choisir ton métier, il faut que tu te prennes en main. » Sauf que pendant la petite enfance et la primaire, bah, c'est assez rare qu'on leur ait dit « Ok, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» et de partir d'eux-mêmes. Donc les professeurs font ce qu'ils peuvent, il y en a assez peu, pas assez en tout cas, et sous-formés. Et les enfants sont souvent très stressés par le système scolaire. Et ils projettent, en parlant avec certains, ils se projettent à plus tard et juste ça leur donne pas envie d'être adulte, quoi. Et tout ça, ça rajoute des pressions. On peut se poser la question, du coup, avec un revenu de base. Un jeune, plusieurs, toute la jeunesse, tous les enfants pour l'instant, puisqu'on parle d'eux. Eh ben, la question, ça serait pour moi... En tout cas, ma grande interrogation, c'est l'impact symbolique. Un enfant qui naîtrait, non pas seulement dans une famille, mais dans une société, avec la conscience que cette société lui apporte d'emblée une reconnaissance, qu'il a déjà sa place, et non seulement en droit, donc on est effectivement égaux en droit, etc., ça c'est notre premier article de notre Constitution, mais aussi en moyens. C'est-à-dire qu'on donne, on reconnaît à l'enfant, déjà à l'enfance, puis plus tard, juste le fait de vivre mérite qu'on lui accorde un minimum de moyens et donc de finances pour le coup, sous la forme d'un revenu de base. Et cette reconnaissance sociétale, moi je ne peux pas m'empêcher de la mettre en lien avec ce qu'on appelle l'attachement sécure. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il est avec ses parents, ou c'est la maman d'abord et puis progressivement d'autres adultes, etc., il a besoin d'être aimé, point, de façon inconditionnelle. Ben, c'est un peu comme si on proposait, mais avec la société, d'avoir cet attachement sécure. C'est-à-dire que de façon inconditionnelle, la société nous reconnaîtrait, chacun, dès l'enfance, comme participant à son réseau. Et je suis sûre, et les expérimentations nous montrent un peu aussi, que ça pourra développer l'appartenance, l'intégration, l'interdépendance, parce que ça appelle la réciprocité, quoi. Effectivement, dans les expérimentations, on voit déjà que, évidemment, c'est les adultes qui le reçoivent, mais ils le distribuent, ils l'orientent en grande majorité vers les enfants. D'abord, en termes de santé, alimentation. En Namibie, par exemple, on voit qu'il y a, dans l'expérimentation qui a duré qu'un an et demi, il y a déjà eu moins 42% de malnutrition, comme au Brésil. Après, le deuxième point, c'est la scolarité. En Afrique, en Inde, il y a une chute de l'absentéisme, surtout pour les filles qui ont pu avoir accès plus à l'école. Je vous rappelle qu'elle est payante là-bas. La participation aussi a augmenté, les résultats scolaires, et par contre, ce qui a divisé, c'est les redoublements. On voit aussi un troisième effet qui est très intéressant, c'est la cohésion et la stabilité familiale. Aux USA, par exemple, sur une expérimentation qui dure depuis 30 ans, il y a une baisse significative des violences éducatives. Et donc on voit comment le fait de sécuriser avec un revenu de base, non seulement l'enfant, mais surtout ses parents et son environnement proche, eh ben on ne fait que permettre un développement plein et stable et serein d'un être non seulement en devenir, mais qui existe déjà, quoi. Je me souviens, par exemple, Lubin, hors antenne, hors micro, tu avais parlé du fait que les violences que tu as pu voir dans la rue ou dans le métro, ça t'impressionnait beaucoup déjà. Et même que ça te faisait un peu peur. Avec un revenu de base, est-ce que tu penses que ça changerait ?
Bah, les gens seraient moins stressés, plus stables, auraient une vie plus tranquille. Du coup, il y aurait sûrement moins de violences générées.
Est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres effets sur la société ? Ce revenu de base sur les adultes que tu peux voir, les personnes qui, je sais pas, des gens que tu croises qui sont au chômage,
bah ils pourront continuer à vivre tranquillement même si au chômage bah ils gagnent moins. Mm-hmm. Et les SDF, bah ça leur permettrait de bien se nourrir, de bien s'habiller et de pouvoir avoir un logement.
Et je te remercie parce que ça rejoint notamment des études qui ont été faites pendant la pandémie et notamment le premier confinement, où dans certains quartiers, le fait qu'il n'y ait plus d'école et donc plus de cantine, ça a fait exploser les achats. Et pour certaines familles, ça a été très difficile, même rien que de nourrir leurs propres enfants, quoi. Parce qu'il n'y avait plus, tout le système qui soutenait, et que financièrement, stricto sensu, la capacité des familles était réduite. Merci beaucoup, Lubin, pour ton témoignage.
Eh bien, écoute, pour ma part, je vais donner un petit conseil à tous les nourrissons et enfants de la Terre. C'est un conseil qui vient de Coluche, donc on n'est pas obligé de l'entendre directement, hein.
On commence par un premier témoignage de Clément qui va entourer... ta prestation musicale, ça te
va ? Tout va bien. C'est parti.
Ça aurait changé beaucoup de choses d'avoir un revenu de base. On aurait eu le temps de s'établir sur place et de voir, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui ne serait pas le cas. On aurait moins cette urgence-là, finalement, si on avait un revenu de base d'être obligé de sauter d'une activité à une autre, sans prendre le temps de réfléchir, sans avoir la possibilité d'y réfléchir, finalement. Mon service civique va bientôt se terminer, donc dans un peu plus d'une semaine. Et pour l'instant, je sais pas, j'ai pas d'idée précise de ce qui va se passer derrière. Bon, c'est sûr que j'ai pas retrouvé du travail tout de suite. Mais dans un premier temps, il y a de bonnes chances pour que je trouve un travail qui n'ait pas forcément un gros rapport avec ce que je fais maintenant. Puisque ça va plus être finalement trouver un travail.
Combien d'entre nous ont connu ou sont ce vingtenaire sans diplôme, sans boulot, qui sent qu'il sait faire plein de trucs, mais qui n'a encore aucun moyen de le prouver. Ça vous rappelle quelque chose ? Avec 1000 billets de plus par mois, tout aurait été différent, non ?
Ah, toi l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête, que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père, qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Plutôt que d'apprendre à l'école, baise et collectionne les véroles. La médecine fait quelques progrès. Tandis qu'à gagner du bagage, tu n'aboutirais qu'au chômage, où déjà se sont entassés ceux qu'on cru dans la société. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Moins tu en fais, plus tu laisses faire, plus ta santé déjà précaire te libère de ses tourments. Gagner ta vie ne vaut pas le coup, attendu que tu l'as déjà, le boulot y en a pas beaucoup. Faut le laisser à ceux qui aiment ça, sois feignant, sois feignant. Tu vivras content, sois feignant, tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un copain, tu en auras moins de chagrin que si tu n'as pas à manger. Et si t'as la main sur le cœur, n'hésite pas à la couper, tu entendras moins les moqueurs. Si c'est toi qui les as roulés, sois feignant, tu vivras content, sois feignant, tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un couillon qui t'envoie tout droit en prison, dis-toi qu'il est plus mal logé. Car pour te payer ta pitance, tandis que tu feras pénitence, lui qui est si fier de t'enfermer, faudra encore qu'il aille bosser. Sois feignant, sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Voilà, c'était mon héritage. Comme tu vois, j'ai fait mes bagages. Je te laisse avec ta maman. Tu perds rien, j'ai pas le gros lot. Et tant pis pour toi si je triche, tu seras peut-être un enfant de salaud. Mais tu seras pas un gosse de riche. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, mon enfant. L'avenir t'attend.
Vous êtes toujours à l'écoute de Tous Essentiels, l'émission du Revenu de Base, tous les premiers vendredis de chaque mois sur Radio Campus 106,6 et avec Virginie.
Alors merci beaucoup Max pour ton choix éclairé et plutôt rigolo et en même temps pas si faux quand même. Alors on va enchaîner avec les plus grands. Les plus grands, c'est les jeunes adultes. Merci Jason de représenter les jeunes adultes parmi nous. Premier constat, c'est qu'à 18 ans, on peut payer des impôts, on peut aller en prison, on peut voter, et pourtant on n'a toujours pas de minimum social, parce qu'on est toujours rattaché à la famille. Ben oui, jusque 25 ans, la famille a droit à une demi-part sur les impôts, et l'APL ou même les bourses des jeunes sont finalement dépendent du niveau financier de la famille. Et donc du coup, alors je vous dis pas pour ceux qui sont en rupture familiale, mais concrètement, même avant le Covid, il y avait un taux de pauvreté en France de 12,5%. On est quand même recordman en Europe, hein, je vous félicite, ou pas. Un tiers des étudiants doivent travailler pour pouvoir payer les études et juste survivre. 50% au moins ont un job d'été. Et entre 2002 et 2018, juste là, on a vu augmenter la pauvreté de 50%, fois deux, quoi. Et pareil, en Europe, ils n'ont jamais vu ça. On est les meilleurs. Donc je ne sais pas, est-ce que tu vois des cas de pauvreté parmi ceux que tu peux rencontrer à la fac
Alors, dans ma classe particulièrement, de ce que je peux témoigner, je n'ai pas vu de cas de pauvreté flagrant, de personnes qui ne se nourrissaient pas. Par contre, c'est clairement dans les résidences étudiantes un phénomène qui ne me surprendrait pas de croiser. À titre personnel, je ne l'ai pas vu.
Oui, on a vu, alors là, on peut aborder justement pendant le Covid. On a tous en tête ces files de jeunes qui sont, qui attendent pendant des heures pour avoir juste un panier repas. Donc pendant le Covid, il y a quelques chiffres. Alors, j'ai tiré quelques chiffres de l'Observatoire des inégalités. Il y a aussi l'Observatoire national de la vie étudiante et un rapport qui a été fait par Madame Buffet en fin décembre 2020, qui disait que par exemple, 50% des jeunes, donc entre 18 et 24, des étudiants en particulier, mais pas que, étaient inquiets pour leur santé mentale. 30% ont renoncé à des soins faute d'argent. On a quand même un chômage de 22,2% parmi les jeunes et 38% en contrat précaire. Donc vous voyez qu'au-delà même des étudiants qu'on peut évoquer, il y a aussi tous ceux qui travaillent ou qui essayent de travailler et qui évidemment, pendant le Covid, même s'il y a eu des solidarités impressionnantes, beaucoup de jeunes se sont pris en main, ont monté des initiatives dans leur quartier, etc. Il y a eu beaucoup de bénévolat, sauf que les stages et l'insertion professionnelle, il n'y en avait plus. Et du coup, il y a eu aussi une tentation par rapport à se rapprocher des économies parallèles et des trafics, parce que là, il pouvait y avoir de l'argent et il pouvait y avoir de quoi subvenir, non seulement à ses besoins, mais aussi à ceux de sa famille. Et donc là, on voit qu'il y a une situation très particulière, mais où tout le monde dit que pendant le Covid, ça a juste été un révélateur, une sorte de concentration de ce qui existait déjà, en fait. Ça a juste révélé, montré des phénomènes qui existaient déjà. Je ne sais pas, pendant le Covid, est-ce que tu as pu assister à des...
Alors, pendant le Covid, de ce que j'ai vu... En effet, j'ai vu croiser une fois une file d'attente pour les Restos du Cœur, quelque chose comme ça. Mais je me suis pas arrêté pour le coup. À titre personnel, le Covid s'est bien passé parce que j'ai l'avantage justement d'avoir travaillé avant en fait. Mmh. Et
je compte pas sur mes pécules que t'aurais eu de côté quoi.
C'est ça. Donc j'ai tapé dans mes réserves pour financer ces mois. Et
sinon, le quotidien d'un étudiant, ça se passe comment? Si on met de côté justement cette sécurité que tu as pu avoir, que d'autres peuvent avoir par la famille, par exemple?
À titre personnel, je le vis bien. Voilà, je vis bien. Par contre, oui, je compte mes sous et je sais où sont mes dépenses exactement, en fait. Je sais combien coûte mon loyer, je sais combien je paye. Et de mes calculs à moi perso, entre la bourse plus la CAF que je touchais avant le Covid et des repas à 3,30€ au Crous, j'étais dans le rouge. Concrètement, tous les mois, j'avais entre 100 et 50€ dans le rouge, environ, à peu près. Sachant que j'ai l'avantage de pas avoir de voiture, donc pas d'assurance voiture, pas de crédit sur la voiture, pas d'essence pour la voiture, ce qui m'empêche aussi de chercher un boulot pour bosser et pour financer les choses.
Et donc du coup sans extra finalement, parce que sans voiture, ça veut dire que tu utilises que les transports en commun et
c'est ça.
Les sorties, etc.
Les sorties, déjà Covid, il n'y en avait plus. Mais, oui, mais même pendant les 6 mois que j'ai fait avant le Covid d'étudiant, j'avais complètement arrêté les sorties.
Faute d'argent, finalement. Enfin,
C'est juste que je ne pouvais pas spécialement me permettre. Donc, je préfère faire mes cours et ne pas sortir que sortir un petit peu, même si c'est pour voir les potes et justement, faire du lien social avec les étudiants, vu que ça fait partie aussi des problèmes qu'il y a eu dans le Covid, de la perte du lien social. Pour faire des soirées, il faut un petit peu d'argent, même si c'est que 20€ pour payer un gâteau ou quelque chose comme ça.
Certains pourraient se dire, de toute façon, les étudiants sont là pour étudier, donc s'ils ne sortent pas, etc., c'est pas plus mal, ils sont plus concentrés sur leurs études.
Oui, ces personnes-là, je les invite à venir et je les invite à faire les cours. Ouais. Voilà, je pense que j'ai jamais été quelqu'un qui travaille pas ou qui fait pas, en fait. Mais le travail en groupe, c'est ce qu'il y a d'essentiel. C'est comme ça qu'on réussit. C'est individuellement, certains réussiront beaucoup moins que s'il y a du travail en groupe, s'il y a de la cohésion dans les classes. C'est ce qu'il faut faire. Et ce, à l'université comme en maternelle, par exemple. Où c'est qu'il faut vraiment avoir un... travailler en groupe, c'est le secret de la réussite, en fait.
Donc il y a besoin aussi d'un équilibre, d'une vie, un peu comme nous, finalement, avec le boulot. On a aussi besoin d'une vie personnelle, de pouvoir s'échapper, de rencontrer des gens. Et toi, tu dis qu'en plus, c'est des rencontres qui viennent alimenter le travail, puisque ça crée de la cohésion de groupe, etc. En fait,
c'est exactement ça. Quand vous avez des collègues de boulot que vous entendez très bien avec et que vous faites des soirées avec, au boulot, ça se passe très bien généralement. C'est ce genre de choses-là qu'il faut reproduire à la fac aussi.
Merci. Alors, en fait, le gouvernement, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant le Covid? Eh ben, d'abord, il a réagi très, très tard. Hein. La ministre de l'Enseignement supérieur n'avait rien anticipé. C'est que quand les étudiants ont commencé à montrer que ils avaient faim, qu'on leur a accordé un repas à 1 euro deux fois par jour pour tous, donc ce qui était réservé aux boursiers au départ. En plus, ils ont dit qu'il y avait une garantie jeune qui existait. Alors, pour rappel, la garantie jeune, c'est pas un droit. C'est juste des missions locales qui peuvent proposer à certains jeunes de bénéficier d'une certaine somme. Et encore, il faut faire un dossier et à renouveler tous les 3 mois. On ne sait jamais combien on va gagner exactement. Donc, c'est quand même très conditionné et assez précaire. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils voudraient étendre cette garantie jeune. Alors, avec des grands mots extraordinaires. La confiance dans notre jeunesse et même l'universalité. Alors nous, pour revenu de base, on est plutôt contents. Donc on s'est dit, ah tiens, l'universalité de la part de notre gouvernement, comme c'est étrange. Nous avons écouté. Alors en fait, oui, effectivement, universalité, on le donnerait à tout le monde. Donc un revenu de base à tous les jeunes de 18 à 24 ans, mais avec un petit détail, c'est qu'il serait remboursable. C'est ballot. Alors oui, tout le monde y a droit, mais il va falloir le rendre après. Et là, on voit se profiler cette logique libérale qui fait fureur aux États-Unis de prêter aux étudiants pour leur permettre d'étudier et juste de vivre ou de survivre pour certains. Et en fait, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que c'est une bulle spéculative énorme qui grossit et qui va bientôt péter. Donc si on veut pas un deuxième 2008, ça serait bien surtout qu'on ne s'aventure pas par là. Bon, si je suis invitée à l'Élysée, je leur dirai, mais en attendant, voilà ce qu'ils nous promettent. On ne parle même pas du service national universel où on en promet qu'on réunira les jeunes et puis que pendant 2-3 jours, on va leur inculquer des valeurs de solidarité, d'obéissance. Non, c'est pas ça. Enfin bref, plutôt que justement juste sortir des moyens pour l'enseignement supérieur, pour qu'il soit pas 600 dans un amphi de 500, etc. Et on parle pas non plus des services civiques qui ont explosé. Donc là, maintenant, c'est devenu la grande mode des services civiques. Vous savez, ces quelques mois où on emploie un jeune pour lui apprendre la coopération, l'investissement dans une association, etc. Sauf que concrètement, ce qu'on voit, c'est que ça remplace des emplois de plus en plus et que c'est surtout à bas coût parce qu'ils n'ont pas le minimum vital. En tout cas, ce n'est pas à hauteur du minimum
essentiel.
Merci. Donc voilà, donc les réponses du gouvernement ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos espérances. Ils ont même refusé l'extension du RSA aux jeunes de 18 à 24. On a eu une demande très très forte, autant des syndicats d'étudiants que de certains politiques, même des sénateurs, des députés, des présidents de départements. Il y a comme ça toute une montée pour réclamer que les jeunes aient au moins le droit au RSA, ce qui n'aurait pas coûté tant que ça. Eh ben non. L'explication ? Il faut que ça repose sur la solidarité familiale et surtout que ça ne ressemble pas à de la cistana. Ce qui est très étrange, parce que quand on regarde très concrètement, Jason nous a dit lui-même qu'il travaille, et même quand il arrête de travailler parce qu'il n'aime pas, il veut retravailler. C'est fou quand même. Une petite pause musicale ?
Mais avec plaisir. Écoute, je vais rester dans les conseils aux enfants. Là, cette fois-ci, c'est Yvon Etienne qui s'y colle. Ça s'appelle « Mentez les enfants ».
Quand il était tout petit gars, il rentrait tard de l'école, on lui mettait des torgnoles. Quand il racontait des histoires que personne ne voulait croire, un jour il a fait des bouquins, tout le monde a trouvé ça très bien. Mentez, mentez les enfants, à vos copains, à vos parents. La vérité c'est bien mieux quand on l'enjolive un peu. Mentez, mentez les enfants, à vos copains, à vos parents. La vérité est bien plus belle quand on y met son grain de sel. Le lendemain, il n'apportait rien. On lui donnait des coups de poing. Maintenant, il fait des discours dans lesquels il promet toujours pour lui, tout le monde va voter. Il est devenu député. Mentez, mentez les enfants à vos copains, à vos parents, la vérité c'est bien mieux, et quand on l'enjolive un peu. Mentez, mentez les enfants, à vos copains, à vos parents, la vérité est bien plus belle, quand on y met son grain de sel. Pour vous, j'irai sur les collines. Je décrocherai des étoiles, je les poserai dans vos voiles. Elle lui ricanait sous le nez, et sans lui, elles allaient jouer. Aujourd'hui, il fait des chansons, c'est lui qui tourne les talons. C'est bien mieux quand on l'enjolive un peu. Mentez, mentez les enfants, à vos copains, à vos parents, la vérité est bien plus belle quand on y met son grain de sel. L'avenir, c'est l'imagination. La vie commence par une menterie. Le chou, la rose, les grains de riz. Le père Noël, le père Fouettard, le marchand de sable et tout le bazar. Vérité, c'est comme liberté. Ça n'est jamais au singulier. Mentez, mentez les enfants, à vos copains, à vos parents, la vérité c'est bien mieux quand on l'enjolive un peu. Mentez, mentez les enfants, à vos copains, à vos parents, la vérité est bien plus belle quand on y met son grain de sel.
Je pense que je prendrais plus le temps de me poser pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire justement. Et genre du coup, genre j'essaierais de créer des choses. Genre je me fixerais pas des métiers bateaux pour me financer, pour faire un projet qui peut-être n'aboutira pas parce qu'au final la société est pas prête à l'accepter. Mais genre peut-être que du coup j'aurais plus d'espace pour respirer, pour me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, qu'est-ce qui pourrait être utile.
Et voilà, mentez les enfants, c'est une chanson d'Yvon Etienne, parce qu'il est vrai que les adultes passent leur temps à mentir aux enfants, alors il faut bien qu'ils se vengent.
Mais pourquoi ? Bon, d'accord, peut-être pour le Père Noël, mais...
Ah, mais aussi pour la croissance infinie dans un monde fini, ou ce genre de... Tu vois, ça va assez loin, en fait, être le mensonge.
Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Alors, on vient d'entendre Nina, qui a 20 ans et qui témoigne dans le film Les gens et le revenu de base, dont on a déjà parlé et dont on pioche régulièrement quelques extraits. Alors, quelques infos, quelques chiffres pour vous donner un peu de repères. Depuis l'après-guerre, l'Union nationale des étudiants de France, en gros l'UNEF, revendique une allocation d'autonomie, puisque il partait déjà du principe que les étudiants, en fait, c'était des travailleurs intelligents et que, liés à ça, ils avaient quelques droits, quoi. Aujourd'hui, il y a aussi la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, qui milite aussi pour un revenu inconditionnel pour tous les jeunes. Et ils sont rejoints par d'autres syndicats, notamment pour les jeunes qui travaillent, mais aussi des partis, les jeunes écologistes, les jeunes générations, le PC, le PS et quelques autres. Et tout cela, non seulement, alors, évidemment, leur rêve, c'est d'avoir quelque chose de sécurisé pour chaque étudiant, mais même, ils étaient prêts à se satisfaire d'un RSA juste pour les 18-24. Puisque au niveau du Sénat, il y a eu tout un projet, même une proposition de loi qui a été retoquée, on vient de le dire. Concrètement, ils ont évalué à 4 milliards d'euros par an pour financer juste un RSA, on n'est pas encore sur le revenu de base inconditionnel, pour 420 000 jeunes qui ne sont pas étudiants, donc n'ont pas de bourse, qui ne sont pas travailleurs parce qu'ils s'en trouvent pas, tout simplement. Et voilà, un petit repère, ça équivaudrait à peu près à la réduction d'impôts, vous savez, qui a été accordée pour tous les emplois à domicile. Bon, on a tous, évidemment, un emploi à domicile, non ?
Ah bon ?
Non ? Ah, bah c'est peut-être réservé aux riches alors. Bah, figurez-vous que les riches maintenant ils payent plus d'impôts parce que ils peuvent employer des gens à domicile sans payer d'impôts de pour leurs salariés.
Après ça relance l'emploi, hein, tu sais.
Oui, alors quel emploi ? On rêve évidemment tous de ce genre d'emploi. Un autre repère, la suppression de la taxe d'habitation a créé une perte pour l'État de 20 milliards d'euros. 20 par rapport à 4. Est-ce qu'on peut se dire que c'est si cher que ça, un RSA pour les jeunes français ? Alors, pareil, revenu de base. Alors là, vous allez me dire, mais c'est beaucoup plus cher. Eh ben, on a 20 milliards quand même, hein. Donc, dans le Nord, il y a une motion qui a été déposée au Conseil régional par le PC et le PS en février. Ouais, c'est février de cette année, je vous assure. Ils ont demandé que pour les 1,4 million de jeunes qui peuplent notre territoire du Nord, bon, on est quand même le département le plus jeune de France, hein, il faudrait 5,8 milliards d'euros. Oh, mais c'est énorme ! Oui, évidemment, pour mon petit porte-monnaie, ça rentre pas. Mais en fait, ça correspond juste à l'ISF, vous savez, cet impôt sur les grandes fortunes qu'on a supprimé, et la flat tax, c'est une taxe qui permet en fait aux plus riches de payer moins, parce qu'ils payent le même taux que tout le monde. Les impôts, vous savez, tout ce qui dépasse des premières tranches, ben nous, de toute façon, on les a pas, donc on sait pas. Mais l'imposition sur ces tranches-là était de plus en plus grande, c'était une forme d'équité. Ah ben non, maintenant, ça s'appelle une flat tax, donc c'est le même taux pour tout le monde. Donc si on remettait ça, ben on pourrait payer un revenu de base inconditionnel pour tous les jeunes. Ça fait rêver, non ?
Absolument.
Max, qu'est-ce que ça t'aurait permis, toi, à 18 ans, d'avoir un revenu de base ?
Mais, alors, qu'est-ce que ça m'aurait permis, moi ? Ça m'aurait permis d'avoir moins peur et de me lancer un peu plus directement, je pense. Tu vois, c'est que, naturellement, à l'époque, je sais que j'avais décidé de m'accorder jusqu'à 25 ans pour lâcher mon emploi un peu alimentaire et me lancer plus directement dans le spectacle. Après, voilà, ce n'est que reculer pour mieux sauter, tu sais bien.
Oui, mais du coup, ça veut dire que tu as dû avoir d'autres ressources utilisées ou peut-être du temps.
Oui, alors plus ou moins. L'idée, c'est à l'époque où on a monté le cirque du bout du monde, tu sais. Donc, en fait, j'ai trouvé dans mes ressources le fait de devenir enseignant plutôt qu'artiste dans un premier temps parce que c'était plus simple.
Est-ce que tu as aimé ça au moins ?
Ah bah oui, c'est bon. Sympa.
Coup de bol, ça faisait partie de tes compétences et de ce que t'aimais bien. Parce que c'est pas forcément inné non plus. Ça s'apprend, c'est un métier, monsieur, c'est un métier. Dans les expérimentations, on voit des effets sur les jeunes, mais des expérimentations de revenus de base. Alors, je vais commencer juste hors revenus de base, dans les pays nordiques déjà. Les pays nordiques de l'Europe, vous voyez, ceux qui sont vraiment pas loin de chez nous, et il paraît qu'ils sont tellement bien qu'il faudrait les copier tout le temps. Dixit, notre président. Ils ont déjà une protection sociale pour les 18-25. Mais allez-vous me dire, mais il doit y avoir une massification de la paresse ? Eh bien, pas du tout. Et même qu'en Suède, ils payent pour chaque jeune, si, qui le souhaite, 2 ans de liberté. Une sorte de petit salaire. Et ils font ce qu'ils veulent avec. Mais vous allez me dire, mais ils doivent jouer aux jeux vidéo toute la journée. Eh bien, pas du tout. ils font des voyages, ils vont à l'étranger, ils vont faire des stages, ils rencontrent, et même quelquefois, ils essaient de lancer leur boîte. Mais pourrait-on imaginer que ils enrichissent ?
Des jeunes s'investissent, c'est dingue.
C'est dingue ?
Non, enfin, à titre personnel, enfin, tous ces chiffres-là, enfin, je vois pas le revenu de base ou que ce soit la bourse ou tout ce qu'on peut appeler qu'on entre guillemets donnerait aux jeunes. Enfin, c'est pas un truc. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir ça comme comme un investissement où c'est que on investit pour nos études, pour nous entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ingénierie. Donc, ce que je vais sortir au niveau recherche et développement, par exemple, ou la plus-value que je peux apporter, ou juste de la recherche que je peux apporter. Et en fait, le revenu de base ou les bourses ou n'importe quoi, c'est juste pour permettre aux étudiants et aux jeunes, de manière générale, l'investissement sur l'avenir, en fait. Mmh. Que la collectivité puisse retirer quelque chose de leur travail qu'ils vont faire après.
Oui, comme une espèce de productivité différée, quoi.
Oui, c'est ça.
Mmh. Mais en fait, le problème, c'est que certains disent, je dis certains, c'est pas moi, bien sûr, mais certains disent que bah, ça pose un souci parce qu'on n'est pas complètement sûr que tout le temps et toute l'énergie, puis c'est de l'argent quand même, bah, que ce soit vraiment rentabilisé. Est-ce qu'on est sûr que vous allez travailler à la hauteur de ce qu'on a donné pour vous, tu vois, un petit peu
Est-ce que quand on fait un investissement dans n'importe quel autre secteur, on est sûr de sa mise ?
On n'est pas sûr non plus. Question.
C'est le principe d'investissement. S'il y a quelque chose à gagner dans l'investissement, c'est qu'on risque de perdre aussi son investissement.
Tout à fait.
Là, c'est exactement pareil, en fait.
Et puis, en plus, ce qu'on gagne, parce qu'on le voit aussi dans les expérimentations, c'est que, au passage, les jeunes, bah, quand ils sont sécurisés, ils font moins de conneries. Donc, si vraiment vous étiez un peu méfiant sur la jeunesse, vous pourriez vous dire, les jeunes, ils vont aller boire, ils vont se droguer, voilà, ils vont utiliser cet argent n'importe comment. Eh ben non. Non, dans les expérimentations, ce qu'on voit, au contraire, c'est qu'il y a une chute des délits de drogue, d'alcool, aux USA notamment, dans l'expérimentation qui dure depuis 30 ans, et on voit même que les jeunes votent plus. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le fait de recevoir un revenu de base par cette société, cette communauté, dont ils font partie intégrante quand même, et bien que du coup, le fait de recevoir quelque chose, ça leur donne juste envie de donner, de prendre leur place, d'être utile, quoi.
D'avoir du temps pour le faire.
Et d'avoir du temps pour le faire.
S'intéresser à la politique de manière générale, c'est un truc extrêmement compliqué. Et voilà, faut aussi avoir le temps de se passionner pour ça, de regarder ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est dit, du pourquoi, dans quel contexte. Donc ça prend du temps et... Donc c'est obligé de manger sur un petit peu du temps de travail ou du temps libre.
Et le principal, c'est que ça ne mange pas sur du temps qui est nécessaire pour travailler, qui est nécessaire pour manger. Voilà.
Pour se financer.
Et du coup, effectivement, ça pourrait être un levier de citoyenneté pour la jeunesse en général, alors pour tous en général et la jeunesse en particulier. Parce que voilà, vous arrivez dans un monde assez fluctuant qui est plutôt dirigé par des un peu plus vieux ou même un peu plus très vieux. Donc comment est-ce que vous, on peut accompagner votre participation qui fait partie des droits de l'enfant ? Alors un autre exemple, expérimentation toujours. La poursuite des études et la hausse du niveau général de diplôme aux USA, au Canada, en Alaska et autres, on voit qu'il y a une hausse des notes, chute du décrochage scolaire et même c'est un peu une incitation à la formation toute la vie. Donc on voit comment ça vient finalement subventionner une hausse de compétences générales et dans un monde où on nous demande de plus en plus de nous adapter, c'est quand même important.
Là-dessus, par exemple, je pourrais témoigner en disant que dans ma classe, on est à cause du Covid, on doit être autour de 33 ou 40% de réussite sur la classe et que la majorité des personnes qui ont réussi à avoir leurs examens, c'est essentiellement des personnes qui vivent soit chez leurs parents, soit qui sont à l'aise financièrement parce que voilà, ils ont la bourse, ils ont aussi les parents qui les aident derrière, ce qui est tout à fait louable et à leur avantage, et c'est très bien ainsi. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tous les étudiants en fait qui ont ces avantages-là. Et c'est un peu malheureux que le contexte familial influence autant nos études en fait.
Ça nous rappelle à une certaine inégalité qui se perdure et qui continue même au-delà, puisque j'imagine que le fait que ça réduise comme ça le taux de réussite, c'est quand même deux tiers j'allais dire d'échecs, c'est même pas ça, c'est des personnes qui n'ont pas pu continuer, qui n'ont pas pu s'accrocher, qui en plus, j'imagine, ont d'autres séquelles, parce que s'ils ne l'ont pas fait, c'est que ça n'allait pas, et en termes de santé, etc., ça doit être, c'est une catastrophe. Luba ?
Mais du coup, ça veut dire aussi que si les parents sont plus pauvres, les enfants ne peuvent pas choisir leur étude, donc peuvent peut-être faire des métiers qui rapportent moins aussi.
Donc effectivement, c'est une sorte de reproduction sociale où les enfants ne peuvent pas ou ont moins de chances de dépasser le niveau social et de confort et de sécurité de leurs parents. C'est ça que tu veux dire ? Oui, tout à fait.
Et moi, je me demande si au final, ce ne serait pas, en imaginant un système universel, ce serait une bonne raison de payer ses baskets un peu plus cher.
Tu dis ça dans quel sens ?
Eh ben, dans le sens de notre ami Didier Super, par exemple, qui a fait une chanson qui s'appelle « Petit enfant chez Noël ». Tu te souviens de ça, « Petit enfant chez Noël » ?
Je pense que tu vas nous le rappeler.
Ah ben oui.
En attendant, je vais finir sur les résultats des expérimentations. Parce qu'on a aussi des preuves qu'avec un revenu de base, eh ben, en fait, les jeunes ils peuvent mieux s'insérer professionnellement et en termes de citoyenneté, comme on disait. Alors, par exemple, en Ouganda, sur 12 000 jeunes qui ont juste reçu, en un seul versement, 400 dollars. Alors, il faut quand même savoir que 400 dollars, c'est l'équivalent d'un an de revenus là-bas. Hein. Donc, c'est quand même pas rien. Mais ils ont reçu qu'un seul versement. Bien, figurez-vous qu'il y a eu plus de 60% d'embauches suite à ce versement et plus de 50% de revenus au-delà de ce qu'ils avaient gagné. Ça veut dire qu'ils ont réussi à faire fructifier l'argent qu'ils avaient reçu. Et pourquoi ? Bah, simplement parce qu'ils l'ont utilisé comme un investissement dans un commerce, par exemple, ou la formation, ou un autre outil de travail. Donc on voit comment, finalement, le fait de faire confiance et de sécuriser les gens, les jeunes en particulier, quand ils ont encore plein d'énergie, quand ils ont encore plein d'idées et qu'ils sortent de leur formation, eh ben, ça sert à impulser l'économie. Oui, Luba ?
Tu veux donc dire que les arbres à sous, ça existe ?
Eh ben oui, c'est ça. Les arbres à sous, ça existe. Et ça existe surtout avec un revenu de base.
Voilà, j'ai retrouvé la chanson de Didier Super, du coup je vous la passe immédiatement.
Petit enfant de la Chine, tu fabriques mes jouets dans ton usine. Avec tes tout petits doigts, tu t'amuses bien, c'est un peu grâce à moi. Ton patron, il doit être trop cool, il t'oblige pas d'aller à l'école. Et si il te file pas beaucoup d'argent, c'est pour que tu restes longtemps un enfant innocent. Mais quand même j'aurais voulu te dire un truc, depuis que mes jouets sont faits chez toi, ben moi je trouve quand même qu'ils sont un peu moins solides. Ce serait gentil de ta part que tu t'appliques, parce que sinon je peux te parler de mes baskets, que ça fait seulement 3 semaines que je les ai, et y'a déjà la semelle qui se décolle. On voit bien que c'est pas toi qui vas les porter. Petit papa chinois.
L'octroi du revenu universel doit permettre à chacun de pouvoir exercer sa propre liberté, ce qui n'est pas simple. Et tout à l'heure, quand on évoquait les difficultés d'application du revenu de base, eh bien, je dirais que l'acquisition de sa propre liberté n'est pas non plus une chose forcément simple. On n'est pas habitué à ça. On est effectivement habitué à bien souvent laisser un environnement penser à notre place. On s'adapte à notre environnement. Il est vrai que très tôt, nous sommes formés au consumérisme, nous sommes formés au productivisme, dès l'école, hein, ça commence très très tôt. Et donc, il nous est difficile de pouvoir exercer notre propre liberté, parce que nous n'y sommes pas habitués. Et donc, c'est en ça que le revenu de base doit être vu sur une longue perspective, dans la mesure où cette perspective doit permettre de modifier les esprits, doit permettre de modifier les formations, de sorte que on puisse prendre en compte sa propre liberté et exercer sa propre liberté.
Nous venons d'entendre Bertrand, un jeune de 69 ans, militant aussi au Mouvement français pour le revenu de base, et toujours un extrait du film « Les gens et le revenu de base ». Alors la liberté chez les jeunes, ça se traduit comment ? Est-ce qu'il y a des engagements ? Est-ce que...
À titre personnel, je fais pas partie du Mouvement français pour le revenu de base. Par contre, j'en fais pas partie. La seule association que je fais partie, c'est l'association La Fresque du Climat, qui a pour but de vulgariser les enjeux climatiques.
D'accord.
Je renvoie sur toutes les documentations que notamment La Fresque peut faire. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans le revenu de base, par exemple, c'est que là, sur l'exemple du Ouganda, c'est ça ?
Oui.
Ça permet aussi de l'éducation par les filles, l'éducation des filles. Et l'éducation des filles est au final l'un des meilleurs moyens au monde pour lutter contre le réchauffement climatique.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que les filles avec, entre guillemets, plus d'éducation ou plus de... qui peuvent être plus autonomes, ont généralement moins d'enfants, sont moins dépendants de leur mari. Et ainsi, elles, dans leur empreinte carbone sur toute la vie, va diminuer, en fait.
D'accord.
Donc, c'est le meilleur moyen pour lutter contre les émissions de CO2.
Mais ce que j'entends aussi dans ton témoignage, c'est que, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui s'inquiètent pour le climat et qui sont peut-être plus actifs que nous, les vieux. Et qu'avec un revenu de base, ça te permet, ou ça permettrait peut-être aussi à plus de jeunes de s'engager, soit faire des choix en termes de consommation, soit faire du bénévolat dans ces associations pour sensibiliser, etc., comme tu le fais déjà un peu. J'imagine qu'il faut du temps pour aller aux marches climat, pour s'informer. Tu parlais de citoyenneté.
Je fais pas du tout partie, en fait, des marches du climat, ni de mouvements politiques X ou Y, en fait. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est ce que dit la science. De manière très brute, il y a un réchauffement climatique qui est anthropique et dû à l'homme. Que si on veut vivre encore dans des conditions à peu près correctes, il faut prendre le problème à bras le corps. Et voilà. Après, au niveau politiquement, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Là où le revenu de base peut m'intéresser, en fait, entre guillemets, dans la lutte contre les émissions de CO2 et le réchauffement climatique, c'est que un autre truc qu'on voit pas, c'est que le PIB est directement corrélé avec le CO2.
D'accord.
Donc, quand plus de PIB, ça fait plus de CO2.
Ah.
Voilà. Donc, si on veut limiter les émissions de CO2 en France, il y a un moyen qui est assez efficace, en fait, c'est de diminuer le PIB. Sauf que diminuer le PIB, ça va, en fait, diminuer l'argent de tout le monde, tous les revenus de toutes les personnes en France. Donc, diminuer à la fois les salaires étudiants, à la fois les salaires... Des entrepreneurs ou des SMICAR, entre guillemets, comme des personnes, entre guillemets, plus riches. Donc, ça fait creuse en... Tout le monde va diminuer en salaire et on va se retrouver avec plein de personnes qui vont avoir de moins en moins pour vivre si on met ce genre de politique en place. Et là où le revenu de base est super intéressant au niveau...
Transition
moi, de ce que j'en vois, c'est que le PIB, en fait, c'est une moyenne. Donc ça se représente par une loi normale. Donc, avis à tous les physiciens et matheux qui sont ici, qui nous écoutent. Le PIB, c'est une moyenne. Et l'avantage du revenu de base, c'est qu'on va faire diminuer la variance. Donc on diminue, entre guillemets, l'écart type pour que tout le monde se rapproche un peu plus de la moyenne et qu'il y ait moins d'inégalités. Et ainsi, c'est potentiellement plus acceptable de faire diminuer le PIB si tout le monde est... sur le même pied d'égalité ou beaucoup plus proche, en fait.
Donc, on réussirait à corréler finalement la transition écologique avec la réduction des inégalités. Et sans parler, on a fait une émission déjà sur la transition écologique et le revenu de base. On a vu notamment que ça permettait de libérer, par exemple, le maraîcher qui essaye de trouver un terrain en creuse pour se lancer dans le bio, ou la consommation plus équitable et responsable, etc.
Eh bien, l'émission touche déjà à sa fin, figure-toi, Virginie. Eh, mais oui. Alors, il me reste à lire vite fait le herbiste du mois de septembre. Je ne veux plus vivre au crochet de mes parents. Jongler entre les bourses, l'APL, m'endetter pour payer mes études, accepter n'importe quel taf, être orienté suivant le marché et non mes compétences. J'aimerais me soigner et me loger correctement, prendre le temps de voyager, de m'engager, essayer plein de boulots différents, lancer ma petite entreprise, étudier toute ma vie si cela me plaît.
Merci beaucoup. Et alors, le mois prochain, en octobre, figurez-vous que le 17 octobre, c'est la journée mondiale contre la précarité et la pauvreté. Donc évidemment, ce sera notre thème, avis aux amateurs. Et je vous rappelle qu'il y a toujours une initiative citoyenne en cours pour avoir des expérimentations en Europe. Et au passage, si on pouvait être super nombreux à la signer, ça permettrait aux futurs prochains candidats à la présidentielle de se rendre compte que le revenu de base, ça nous intéresse vraiment. Merci beaucoup Jason, merci beaucoup Lubin d'avoir participé à cette émission.